Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Dieu a écrit un beau livre dont les lettres sont représentées par la multitude des créatures présentes dans l'univers. Je répète, Dieu a écrit un beau livre dont les lettres sont représentées par la multitude des créatures présentes dans l'univers. C'est parce qu'il faut certainement justement nous le répéter pour que nous changions de regard et de priorité que l'on nous cite de plus en plus l'encyclique Laudato Si du pape François, une lecture pour une bonne nouvelle qui est en fait une véritable révolution intérieure. Pour nous aider, les diocèses font de plus en plus leur part et dans le sud-ouest, les initiatives commencent à se multiplier, beaucoup de jeunes pousses, certes, mais elles sont là, à nous de les encourager. Carême 2020, les diocèses à l'heure de Laudato Si, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église en ce mardi coup de zoom traditionnellement sur les initiatives chrétiennes, les réalités de la vie chrétienne dans notre sud-ouest. Avec nous, Pierre Chastrus, vous êtes membre du CCF des Terres Solidaires, bonjour.
Oui, bonjour Emmanuel.
Jean-Marc Moschetta, vous êtes enseignant à l'IRP, l'Institut d'études religieuses et pastorales de l'Institut catholique de Toulouse, bonjour.
Bonjour.
Et puis nous rejoindrons un petit peu plus tard Pascal Fournier, qui est directeur de la communication pour le diocèse de Rodez, et Jean-Paul Pérez, responsable d'une formation appelée « Grammaire de la vie pour une écologie humaine » pour le diocèse de Tarbes et Lourdes. On va commencer avec vous en faisant un point actu avant de plonger dans les réalités du carême. Ce qu'il y a de bien, c'est que quand on se penche sur la fameuse crise écologique, il n'y a pas besoin de chercher longtemps pour trouver des actualités. Elles se succèdent et on ne s'en réjouit pas forcément. La dernière grosse en date, c'est donc le 20 février dernier, a été lancé un appel par 1000 scientifiques, dont une bonne partie donc de scientifiques francophones. 1000 scientifiques qui appelle à une rébellion, rien que cela, et revendique une légitime désobéissance civique. Leur tribune a été publiée entre autres dans le journal Le Monde. J'en donne deux, trois aspects de cette tribune et puis je vous laisse réagir. Ils redisent qu'il faut changer radicalement de modèle économique et productif. Ils laissent entendre que les objectifs donc de la COP 21, de l'accord pardon de Paris en 2015, d'une augmentation de plus 1,5 degré à l'horizon 2100 est aujourd'hui une vue de l'esprit, qu'on s'oriente vers un plus 3%, voire même plus 5%. Et voilà, et du coup, il lance un appel. Alors, on a l'impression qu'il lance entre autres un appel à la jeunesse, les encourageant à multiplier les actions de désobéissance civile. Alors, quelle est votre première réaction avant qu'on regarde un petit peu plus en détail? Est-ce que vous aviez entendu parler de cet appel des 1000 scientifiques, Pierre Chastrus?
Oui, effectivement. Là, on est confronté à une urgence absolue dont on n'est pas suffisamment conscient, peut-être, parce que quand on parle de température moyenne, souvenons-nous déjà des 46 degrés qu'il a fait dans le sud-ouest cet été. Et on n'est pas à 1,5 degré hein, encore. Donc, il y a une étude qui a été faite qui montre bien que même avec une élévation moindre de température, la vie devient très difficile et on arrive ensuite à la limite de l'habitabilité de la Terre.
Alors, sachant que plus 5 degrés, ce que disent les scientifiques, c'est que là, pour le coup, on sait vraiment pas dans quel monde on rentre. On peut se dire que plus 5 degrés, dans le fond, c'est pas... un petit coup de chaud, on passe de 30 à 35. Est-ce qu'il n'y a pas ça dans l'opinion publique, Jean-Marc Moschetta, qui fait qu'on a du mal à se réveiller?
Oui, on a du mal à bouger parce que, au fond, bon, voilà, quelques degrés de différence, on peut l'interpréter comme une petite variation sur son thermostat dans son appartement. Et comme le dit Pierre Chastrus, les choses sont tout à fait différentes, c'est-à-dire que les endroits secs vont devenir encore plus secs, les endroits humides encore plus humides, et que tout cela va être un véritable cataclysme climatique et environnemental.
Qu'est-ce que vous pensez de cet appel à la désobéissance civile? Alors derrière ce qu'on entend, c'est ils sont précis, hein, nous appelons à participer aux actions de désobéissance civile menées par les mouvements écologistes qui sont historiques, Amis de la Terre, ATA, Confédération Paysanne, Greenpeace, ou formés plus récemment, ils en citent un certain nombre, entre autres Youth for Climate qu'on a reçu ici. Qu'est-ce que vous en pensez, puis qu'est-ce qu'il faut entendre derrière ça?
Moi je pense qu'il y a un élément très important qui ressort de cet appel, qui est le fait qu'on manifeste l'incompatibilité entre des objectifs de croissance joyeusement et continuellement affichés aujourd'hui par le gouvernement, par différents gouvernements, et cette espèce d'allégresse vers laquelle, fausse allégresse, hein, qui chante les lendemains qui vont permettre une croissance heureuse et verte. Alors, tout ça ne tient pas. L'analyse scientifique montre que cette croissance ne peut pas aller de pair avec les réalités de cette urgence climatique et qu'il faut au contraire revenir sur ces objectifs et adopter une position beaucoup plus radicale et probablement dans le sens d'une certaine frugalité.
On pourrait citer d'autres passages. De fait, les objectifs de croissance économique qu'il défend, il parle du gouvernement, sont en contradiction totale avec le changement radical de modèle économique et productif qu'il est indispensable d'engager sans délai, dit cette tribune qu'il faut parcourir. Il y a un autre élément d'actualité sur lequel je voulais vous interroger, c'est la fameuse convention citoyenne pour le climat. J'en parle et j'en reparle parce que tout le monde n'est pas au courant. 150 citoyens ont été tirés au sort et réfléchissent donc à ce sujet. Emmanuel Macron leur a même tendu une perche leur disant qu'il avait mis en place cette convention citoyenne pour le climat pour qu'ils aillent plus vite que les politiques. Leurs conclusions doivent être rendues mi-avril. Ça devrait être soumis au Parlement ou à référendum. Il y a des sujets comme se loger, se nourrir, se déplacer, consommer, travailler, produire. Est-ce que vous avez quelque espoir autour de cette convention citoyenne pour le climat, Pierre Chastrus, ou est-ce que vous y voyez un gadget ?
Donc moi j'ai bon espoir parce que de toute façon ce qui est important c'est d'interpeller effectivement les responsables. Hein. On a entendu dans le passé hélas une phrase disant les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. J'espère que c'est bien du passé parce que ça c'est pas conforme si l'on peut dire à une vie digne. Hein. Et donc, moi, il me semble, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait du courage hein, de chacun, collectivement aussi. Il faut de l'action. Tout à l'heure, vous avez donné des exemples d'actions non violentes. Je pense que c'est d'agir, là aussi, selon sa conscience. Et puis, de la solidarité, parce qu'on ne se tirera pas tout seul de l'affaire.
Moi, je n'ai pas donné d'exemple. Hein. Le seul exemple que j'ai, c'est ce que je lis dans la presse, qui est de décrocher les portraits des présidents. Convention citoyenne pour le climat. J'imagine, Jean-Marc Moschetta, vous suivez un tout petit peu. Quel est votre sentiment ?
Mon sentiment, c'est qu'il faut aussi, dans ces conventions, ne pas faire effectivement gadget et intégrer des informations avérées, des informations scientifiques. J'ai tendance à penser que la science fait partie de la solution. Je constate que dans bien des rassemblements et des cercles, il y a une défiance par rapport à l'expertise scientifique, à des chiffres, à simplement mettre en place le nombre de mégawatts que nous utilisons, etc., les sources, et que cela doit faire partie vraiment de l'élaboration d'une solution sociétale et ne pas rester dans la sidération face à cette catastrophe annoncée.
Alors, la sidération, ça entraîne aujourd'hui une maladie, ça a même un nom, ça s'appelle la solastolagie. Alors, vous allez me dire, les maladies, du coup, on a ce qu'il faut. Hein. Ça serait une forme de dépression, d'anxiété liée à la crise climatique qui se développerait chez les gens qui sont, on va dire, les premiers à être confrontés à cela. C'est né en Australie autour d'une exploitation minière. On a vu des populations complètement déprimées, prises par l'angoisse, voyant ce qui se passait. On peut le constater chez les jeunes. Vous aviez un mot, Jean-Marc Moschetta, à ce sujet, et je trouve intéressant que vous en parliez, c'est qu'on peut, quand on est curieux, croiser de plus en plus de jeunes qui choisissent en fait déjà un mode de vie, de rompre les amarres avec la société contemporaine. On appelle ça même, je crois, c'est pas la collapsologie, non ?
Oui, c'est ça. On voit effectivement, et c'est un peu effrayant même, donc chez certains, notamment chez des plus jeunes, une forme de dépression sociétale qui se traduit par, au fond, des actions qui ressemblent à la préparation du monde d'après. C'est-à-dire, on est déjà dans l'esprit de certains, eh bien, en train de reconstruire le monde d'après la catastrophe écologique. Et donc, on va multiplier des initiatives, certes louables, mais qui sont finalement, par certains côtés, l'expression d'une forme de démobilisation.
On y reviendra parce que certainement que ces actions de désobéissance civile, quelle que soit la forme qu'elles vont prendre, vont probablement se multiplier. Donc ça donnera lieu à d'autres émissions. Alors le CCFD Terre Solidaire qui ne baisse pas les bras, loin s'en faut. Pour rappel, première ONG française de développement, 15 000 bénévoles, près de 700 projets, 69 pays. Des projets, des actions de plaidoyer, d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Pierre Chastruz, vous en faites partie. À chaque carême, le CCFD prend sa part. Et là, en l'occurrence, le thème est « Contre la faim, l'heure de l'écologie intégrale a sonné ». Présentez-nous ce carême 2020 du CCFD Terre Solidaire.
Oui, alors c'est dans la continuité de ce que le CCFD donc fait depuis sa fondation. Bon, je rappelle, son objectif, c'est de permettre à tous les hommes de s'épanouir et à tout l'homme. C'est là l'aspect justement intégral auquel on tient beaucoup. Et effectivement, le pape, là, dans son encyclique Laudato si, lui également nous rappelle qu'il y a un aspect global, c'est-à-dire que donc nous devons nous soucier de la clameur de la terre et de la clameur des pauvres. Hein. Et non pas simplement s'imaginer qu'il y a telle espèce à protéger. Hein.
Le pape n'est pas antispéciste.
Non.
L'homme est aussi important.
Voilà, tout à fait.
Que les papillons.
C'est très clair. Et alors, dans sa dernière lettre là, sur l'Amazonie, on voit justement cette beauté donc, de la création en abondance. Hein, mais en même temps, tout est lié, comme il dit. C'est-à-dire qu'il y a également l'aspect humain, les cultures, les différentes cultures qui sont également des richesses. Hein, et il a eu d'ailleurs dans Laudato aussi ce mot disant qu'une culture qui disparaît, c'est comme une espèce qui disparaît aussi. Hein. Alors, donc ce n'est pas quelque chose simplement de matériel.
Alors si on se plonge donc dans ce livret d'accompagnement du carême et proposé donc pour chaque dimanche, trois temps, un temps de contemplation du monde, un temps de recherche d'une conversion, et puis une action de grâce. On va prendre celui du deuxième dimanche de carême, c'était donc dimanche dernier. Je cite, donc j'ouvre le petit livret, un extrait pour commencer, donc contemplation, un extrait de Laudato si, c'est pourquoi l'heure est venue d'accepter une certaine décroissance, c'est le pape François qui parle. Ensuite vous invitez donc à une réflexion sur un chemin, sur une conversion personnelle, il y a des accents, des questions, quel aspect d'une société sobre et heureuse j'aimerais développer, et puis derrière il y a une forme de prière. Le but c'est quoi? C'est que c'est chaque jour, chaque semaine, on prenne le temps de faire des pas?
Tout à fait. Donc il y a une démarche effectivement correspondante donc à la célébration dominicale, hein, avec les textes et puis un questionnement. Et ceci est complété, j'en profite pour vous le dire. Il y a un site qui s'appelle le temps des solutions, tout se tient.org, qui en plus propose chaque jour un acte concret.
40 alors, actes audacieux, 40 occasions de réfléchir et de changer.
Alors aujourd'hui, je vous le livre, c'est terrible, hein, c'est faire preuve de bienveillance.
Hein. Quel est le rapport, on a envie de dire?
Le rapport, il est profond, là, quand on parle d'écologie intégrale, justement. Hein. Donc je peux vous citer un exemple, là, lundi, pas celui-ci, mais le lundi d'avant, il y a eu un bel exemple de bienveillance, c'était la réunion de la quasi-totalité des candidats aux élections municipales sur Toulouse, avec une quarantaine d'organisations de solidarité internationale qui les interrogeaient sur l'accueil des migrants. Et donc ça a été remarquable, parce que bon, il y a eu à la fois des constats de désaccord, bon, on est divers, hein. Il y a eu également donc des points d'accord, hein. Tout le monde donc s'est respecté dans ce, et on est reparti chacun certain avec quelque chose de plus. Donc effectivement la bienveillance c'est pas qu'une vertu morale, hein, c'est la façon de vivre ensemble.
On pourrait citer d'autres exemples. Je me suis promené donc sur ce site, le temps des solutions, évidemment au pluriel .org. C'est des choses très concrètes. Par exemple, hier, je crois, c'était je fabrique mon shampoing avec une recette, donc une recette naturelle. Quelques jours encore plus tôt, c'était un email, c'est 4 grammes de CO2. Donc je pense à nettoyer ma boîte email et pas avoir 5000 mails parce que, en fait, c'est derrière, eh bien, y a un centre quelque part dans le nord de l'Europe pour conserver mes mails et puis très très honneur parce qu'il faut refroidir toutes ces machines qui surchauffent. Est-ce que vous auriez d'autres exemples, Pierre Chastrus, ou pour finir de nous vendre ce parcours de carême du CCFD Terre Solidaire?
C'est pas l'objet de faire une publicité particulière, sinon pour insister sur les projets qui sont donc présentés à travers ceci. Et je crois que c'est d'ailleurs à la limite. Il y a les deux aspects, la conversion personnelle et également une action qui ne peut être que collective.
Alors les projets, c'est donc les projets que soutient au long cours le CCFD Terre Solidaire.
Tout à fait.
Vous pouvez donner un exemple justement?
Alors, tout à fait. Alors donc là actuellement, donc ça n'est pas une surprise sur l'agroécologie, hein, mais ceci est fait en réseau. Donc ça a commencé par un premier programme sur la région des Grands Lacs en Afrique et la partie Sahel. Et cette action-là a été tellement, exemplaire qu'actuellement elle est démultipliée sur l'Asie jusqu'au niveau de l'Indonésie, donc sur la partie de Timor, hein, et également sur les pays andins.
Mais c'est quoi exactement?
Alors c'est la mise en œuvre des communautés, hein, c'est-à-dire le pape François nous dit qu'on a à apprendre donc de ces cultures.
Mais précisément, qu'est-ce qu'il faut en fait et quel projet précis vous soutenez?
Alors, c'est d'améliorer la production vivrière d'abord, puisque le CCFD c'est d'abord lutter contre la faim. Et évidemment, on est sensible au coronavirus ici, mais on oublie peut-être qu'il y a des gens qui meurent de faim en nombre sur la planète.
Mais arrêtez les digressions. Expliquez-nous le projet, c'est quoi pour finir avant qu'on fasse une pause. Là, en l'occurrence, quel type de projet vous soutenez?
D'apprendre comme on le fait ici au compostage, parce qu'on ne sait pas plus forcément le faire dans les pays du Sud que dans les pays du Nord, hein. C'est de s'entraider, parce qu'effectivement, bon, les coopératives, on y a peut-être été trop habitué et on l'a peut-être un peu trop décrié dans nos pays, mais il y a des choses à rétablir. Alors, avec l'avantage, par contre, c'est que la culture est une culture plus communautaire et qu'on peut agir peut-être plus facilement en groupe.
Voilà, soutien donc à des exploitations, on va dire, à taille humaine et qui, elles, ont toujours été écologiques.
Voilà, qui nous renvoient leur exemple.
Cette campagne donc du CCFD Terre Solidaire contre la faim, l'heure de l'écologie intégrale a sonné. On peut donc la retrouver facilement sur le site du CCFD et puis ce site www.letempsdessolutions.org. On va faire une première pause et puis on va parcourir les grandes lignes de l'encyclique Laudato Si. Il est bon de faire des sessions de rappel et de rattrapage. Et à la fin de cette émission, on mettra un coup de zoom donc sur deux diocèses. Ça n'empêchera pas de citer d'autres diocèses du Sud-Ouest, le diocèse de Rodez et le diocèse de Tarbes et Lourdes. On essaiera de voir ce qui se vit et quelle initiative positive sur ce sujet.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Carême 2020, les diocèses à l'heure de Laudato Si, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, les diocèses qui relaient en partie, du moins on l'espère, donc la campagne de Carême du CCFD Terre Solidaire, comme chaque année, cette année donc sur le thème de l'écologie intégrale. Pour rappel, pour ceux qui nous rejoindraient, nous sommes avec Pierre Chastrus, qui est membre de cette organisation, Jean-Marc Moschetta, enseignant à l'IERP, l'Institut d'études religieuses et pastorales de l'Institut catholique de Toulouse, nous rejoindra plus tard Pascal Fournier pour le diocèse de Rodez et Jean-Paul Perret pour le diocèse de Tarbes et Lourdes. Jean-Marc Moschetta, vous avez accepté, je vous remercie, donc, de prendre le temps de nous dégrossir à nouveau sur l'encyclique Laudato Si. Alors évidemment, on ne va pas avoir le temps de la parcourir in extenso, loin s'en faut, mais d'en redonner les grandes lignes. La première chose sur laquelle vous vouliez insister, et c'est ce que j'ai fait au début de l'émission, vous l'aurez remarqué, en citant donc un passage du deuxième chapitre de cette encyclique, l'Évangile de la Création. Dieu a créé un beau livre dont les lettres sont représentées par la multitude des créatures présentes dans l'univers. Et j'ajoutais ce matin en teasing de l'émission des vues panoramiques les plus larges à la forme de la vie la plus infime. La nature est une source constante d'émerveillement et de crainte. Elle est en outre une révélation continue du divin. Expliquez-nous ce deuxième chapitre et l'importance, après on va dire la partie constat du début de l'encyclique, de ce grand chant de louange.
Oui, c'est un chant de louange, et c'est un chant de louange qui comporte une dimension intellectuelle. Et j'insiste là-dessus parce que on sent bien que le contexte nous amène vers un certain nombre de sources de pessimisme, et le pape François nous donne une vraie perspective d'avenir. Et le titre qui a été choisi par ce chapitre 2, là, l'Évangile de la création, je trouve, est très significatif de cette perspective. Il ne s'agit pas simplement louange de la création ou tableau de la création pour dire quelque chose comme la grandeur, la beauté de Dieu. Il s'agit de dire aussi que la nature est un livre, ce qui est d'ailleurs une pensée très traditionnelle, hein, qui remonte à saint Augustin. Le livre de la nature recèle un message. Et il le dit dans le paragraphe que vous avez cité, « Contempler la création, c'est aussi écouter un message ». Voilà, donc il y a une véritable... On passe de l'émerveillement, de l'émotion face à la nature, à l'élucidation d'un sens, à un sens, à un projet. Et ça, c'est très intéressant que le pape l'introduise.
Alors c'est aussi, si j'ai bien compris, c'est en tout cas le souvenir très fort que j'ai d'une émission qu'on avait faite avec vous l'année dernière à l'occasion d'un cycle annuel de lecture et de commentaires de l'encyclique Laudato Si. Vous me disiez, je vais résumer avec mes mots et puis je vais vous laisser compléter, qu'il y a toujours une tradition en fait franciscaine un peu à l'intérieur de l'Église qui disait l'importance de la création et qu'aujourd'hui le pape François valide quelque part cette tradition. Il y a trois lieux, et maintenant on se le dit et on va se le répéter, pour trouver Dieu, c'est pas seulement les autres ou c'est pas seulement la vie d'Église, mais c'est aussi la nature, la création.
Tout à fait, cette relation avec la nature est structurante pour définir l'homme et aussi sa quête de Dieu. Mais je voudrais compléter sur le chapitre 2 parce que le titre, encore une fois, indique aussi que il y a une bonne nouvelle. Le mot évangile fait appel à une bonne nouvelle. Alors de quoi s'agit-il ? En fait, il s'agit, comme vous l'avez dit, de retrouver Dieu, non pas simplement dans l'introspection, dans l'intime de l'âme, mais aussi dans ce qui est extérieur à l'homme, être attentif effectivement à la clameur de la terre, à la clameur du pauvre, de ce qui est faible dans la société et ce qui est faible dans le monde. Et cela est souligné au paragraphe 233. L'idéal n'est pas seulement, dit le pape François, de passer de l'extérieur à l'intérieur pour découvrir l'action de Dieu dans l'âme, mais aussi d'arriver à le trouver en toute chose. Ce toute chose, évidemment, est globalisant, c'est encore une fois les réalités humaines et les réalités environnementales.
Alors pour autant, pour ceux qui en auraient quelques inquiétudes, la nature n'est pas sacralisée, c'est quoi ? C'est une forme de réenchantement ?
Tout à fait. Effectivement, on préférerait parler de réenchantement que de sacralisation. Cette idée que Dieu est présent dans les choses, les petites choses, cette présence mystérieuse de Dieu qui est témoigne d'une relation paternelle, une relation bienveillante, effectivement, de Dieu avec chacune de ses créatures. Donc c'est dit au paragraphe 96, par exemple. Et l'idée est finalement très mystique que Dieu se situe, se place auprès de l'insignifiance apparente de la vie.
L'amour est dans les petites choses, comme on dit.
Voilà. Il y a une mystique, dit le pape François, dans une feuille. Vous voyez, il n'a même pas pris l'exemple d'un animal, il prend vraiment dans une feuille, quoi de plus, vous voyez, inconsommable, on pourrait dire. Eh bien non, il y a aussi quelque chose qui passe inaperçu. Et ce qui passe inaperçu dans la société des hommes, comme ce qui passe inaperçu dans la nature, eh bien c'est là aussi le lieu de discrétion, mais de présence réelle de Dieu.
Je vois le temps qui passe, mais tant pis, je cite quand même. « L'univers se déploie en Dieu qui le remplit tout entier. Il y a donc une mystique dans une feuille, dans un chemin, dans la rosée, dans le visage du pauvre. » Et un petit peu plus loin, « La contemplation est d'autant plus imminente. » Cette fois, il cite Saint Bonaventure, donc franciscain. « La contemplation est d'autant plus imminente que l'homme sent lui-même l'effet de la grâce divine et qu'il sait trouver Dieu dans les créatures extérieures. » Alors, vous vouliez maintenant nous aider à bien lire le fameux, c'est presque un résumé parfois qu'on entend de cette encyclique, « Tout est lié mmh. » ou « Tout est relié », en insistant sur trois points, la dimension sociale, eschatologique et théologique. Alors expliquez-nous et prenez-nous par la main.
Oui, effectivement, tout est lié, ça ressemble au slogan même de l'écologie, c'est-à-dire l'idée qu'il faut considérer les choses dans leur ensemble et qu'il y a une sorte d'intrication, d'interconnexion des choses. On ne peut pas délibérément supprimer une espèce sans dégrader toute une chaîne, etc. Donc ça, c'est bien le slogan de l'écologie. Sauf que le pape François donne à ce, appelons ça un slogan, mais sans être péjoratif, bien sûr, à cette espèce de mot d'ordre, trois dimensions intéressantes. La première, c'est une dimension sociale comme vous l'avez dit, renoue avec l'idée qu'il y a trois relations structurantes pour l'existence humaine. La relation avec Dieu, la relation avec le prochain, mais aussi la relation avec la terre, ce qu'il appelle la terre. Et ce troisième volet constitue finalement un triptyque anthropologique qui, quelque part, a été un peu négligé dans un rétrécissement strictement anthropologique de la théologie du salut.
Et cette théologie anthropologique, ça veut dire qui parle de l'homme ou qui
parle de l'homme. Oui, anthropocentré, on pourrait dire. C'est-à-dire cette idée que, bon, finalement, ce qui est important, c'est notre relation à Dieu et au prochain. Point. Et puis le reste, c'est un décor. C'est voilà. Et donc il faut, dit-il, intégrer à l'écologie humaine, à ces deux relations, donc on pourrait situer du côté de l'écologie humaine, une dimension environnementale. Et c'est là que naît le concept d'écologie intégrale.
Alors la dimension sotériologique, c'est donc de salut, si vous deviez vous arrêter, et puis on y reviendra à la fin, parce que c'est
oui.
aussi le dernier point sur lequel vous insistez.
Tout à fait, la dimension du salut, c'est d'étendre finalement la promesse de salut à tout ce qui a été créé. C'est-à-dire que...
Tout le créé marche vers le royaume de Dieu.
Et alors, un théologien luthérien qui s'appelle Jürgen Moltmann, à cette phrase, il n'est pas cité lui-même dans Laudato si, mais il est intéressant de le faire ici, il dit ceci, « Dieu ne serait pas le créateur de toute chose s'il ne voulait pas la rédemption de toute chose. » C'est-à-dire que l'acte, et ça c'est très traditionnel, l'acte de création est le premier acte du salut. C'est le premier acte du salut de Dieu. Et donc tout est lié, on peut dire, dans le plan de salut de Dieu. En commençant par la création, il n'y a pas d'un côté un Dieu créateur et de l'autre un Dieu sauveur.
Donc dimension, les trois dimensions donc, de l'encyclique, je rappelle que vous essayez de décrypter derrière ce slogan « Tout est lié » ou « Tout est relié », de la dimension sociale, la dimension donc sotériologique, ce grand salut. Voilà, toute la terre, il n'y a pas qu'un peuple qui est en marche vers le royaume de Dieu, mais tout le monde créé. Et la dernière chose, c'est que donc il y a une dimension théologique. Si tout est lié, c'est que notre Dieu lui-même l'est à l'intérieur de lui-même.
Exactement. Et parce que tout est lié, parce que tout est relié en Dieu. Ou plus exactement, en Dieu, tout est relation. La Trinité est une relation subsistante. D'ailleurs, il le dit, les personnes, du paragraphe 240, les personnes divines sont des relations subsistantes et le monde créé selon le modèle divin est un tissu de relations. C'est-à-dire que ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que le pape François fonde théologiquement le caractère, une vision écologique du monde. Il fonde le fait que le monde est relationnel parce que c'est déjà la réalité de Dieu. Donc tout est lié parce que tout est lié en Dieu, on pourrait dire.
Jean-Marc Moschetta, dernière chose, et ça rejoint d'une certaine manière ce deuxième point sur lequel vous insistiez, la dimension de salut, pour ceux qui auraient été perdus par le terme sotériologique, c'est qu'à lire donc l'encyclique, si la nature n'est pas qu'un décor, toute la création donc aspire quelque part à une rencontre, c'est ce qu'on peut lire, le destin en fait de tout le monde créé, à lire le pape François au long de cette encyclique Laudato Si, ce serait dans le fond comme pour nous croyants, telle est notre foi, la rencontre avec le Christ. Alors expliquez-nous ça.
Oui, le Christ est la perspective, est le destin de la création. Donc, d'abord, il faut se saisir d'une réalité qui est rappelée au paragraphe 80. Dieu ne crée pas un monde achevé, un monde parfait. Le monde qu'il nous donne est un monde qui, dit le pape, a besoin de développement. C'est un monde qui est inachevé et qui est en fait en cours d'accomplissement. C'est ce que dit le sabbat introduit dans le premier récit de la création.
Qu'est-ce que ça veut dire plus précisément en fait ? Ça veut dire que Dieu a créé un monde, on va dire, splendide, mais l'homme doit avoir sa part pour que cette création...
Pour qu'il participe, pour qu'il puisse participer à l'œuvre créatrice de Dieu, la mener à son terme et finalement accompagner, c'est ce que dit le pape François sur, par rapport aux autres créatures, accompagner tous les autres êtres vivants vers leur créateur. Il dit « L'être humain, au paragraphe 83, est appelé à reconduire toutes les créatures à leur créateur. » Voilà la spécificité humaine et voilà l'ambition, je dirais la vocation sacerdotale de l'humanité.
Et puis donc cette perspective, toujours le paragraphe 83, la fin ultime des autres créatures, ce n'est pas nous, mais elles avancent toutes avec nous et par nous jusqu'au terme commun qui est Dieu dans la plénitude transcendante où le Christ ressuscité embrasse et illumine tout. Alors ça va parler aux croyants, si vous deviez essayer de vous mettre à la place de ceux qui cherchent peut-être parmi nos auditeurs, comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça ?
Je dirais que ça, c'est le principe de ce que nos frères orthodoxes appellent la théosis, c'est-à-dire que l'avenir du monde, ce n'est pas, encore une fois, le salut des âmes, et puis le monde serait une espèce de décor jetable sur fond duquel se déroulerait la dramaturgie humaine. Ce n'est pas ça. C'est le but de la création, c'est le Christ. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous, ce n'est pas l'humanité. Le monde existe, dit un jésuite américain. Le monde existe parce que Dieu a voulu le Christ. Et cette figure du Christ n'est pas une figure de captation autour d'un personnage particulier. C'est une figure de récapitulation, de guérison et d'accomplissement de toutes les fragilités et les faiblesses de la création.
Alors, si je dois résumer, et puis vous allez nous faire une dernière précision, la création est une bonne nouvelle, à tel point donc que le deuxième chapitre s'appelle « L'évangile de la création » et pas seulement « Laudato si », pas seulement un chant d'exclamation devant la beauté de la création. C'est une bonne nouvelle, tout est lié. Et à l'intérieur de ça, donc, une dimension sociale, une dimension théologique, une dimension de salut que vous avez explicité. Donc, nous marchons tous, quelque part, la vie humaine est une... Si dramaturgie il y a, cette dramaturgie ne concerne pas que l'homme, mais tout le monde créé. Vous aviez quand même deux points d'attention peut-être pour finir. Il y aurait comme deux écueils dans lesquels il ne faut pas tomber. Jean-Marc Moschetta, à propos de Laudato Si, quels sont-ils ?
Oui, alors c'est par rapport à ce slogan. L'ennui avec les slogans, c'est qu'on peut rapidement les dénaturer ou mal les comprendre. Donc d'abord, tout est lié ne signifie pas que, au fond, ce qui compte, c'est la prospérité du groupe ou de l'espèce ou la survie du monde. Mais chacun de nous, dit le pape, est le fruit d'une pensée de Dieu. Chacun de nous est voulu, chacun est aimé, chacun est nécessaire. Il cite en fait le pape Benoît XVI. Et c'est-à-dire que l'individu chaque individu a une valeur inaliénable.
La personne ne se dilue pas dans la communauté.
Absolument. Ça, c'est un des travers aussi qu'on peut entendre dans certaines visions écologiques radicales. Le deuxième contresens possible sur tout est lié, c'est tout se vaut. Tout est lié, alors tout, voilà, donc aussi bien telle petite espèce, etc.
Or, c'est l'antispécisme aussi parfois.
C'est ça, exactement.
Il faut protéger les cochons,
il faut protéger
et faire attention
aussi bien,
aux hommes.
Voilà. Alors, je dirais qu'il y a quand même une hiérarchie entre l'humanité et le reste du créé, qui est soulignée par exemple au paragraphe 90. Il dit que ce n'est pas pour autant que les êtres vivants sont égaux, ni cela ne retire à l'être humain sa valeur particulière. Je reviens sur. je terminerai peut-être sur cet aspect sacerdotal, c'est-à-dire que l'être humain conduit la nature, conduit toutes ces formes de vie élémentaire respectables dans lesquelles se tient, Dieu se tient présent, les conduit vers le Christ qui récapitule tout et accueille tout dans sa plénitude.
Eh ben, merci beaucoup Jean-Marc Moschetta de ce développement sur Laudato Si. C'était presque une conférence de carême, bravo à vous. On va faire une deuxième pause musicale et puis on va retrouver donc certains, enfin on va mettre un coup de zoom sur deux diocèses, le diocèse de Rodez et le diocèse donc de Tarbes et Lourdes. Il se passe des choses et puis on citera les autres évidemment dans notre sud-ouest. Voilà, le frémissement commence à prendre preuve qu'un certain nombre de personnes ont dû parcourir cette encyclique à lire et à relire. Laudato Si. Donc loué sois-tu du pape François, trouvé dans de multiples éditions.
Présence à Toulouse, 97.9.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Carême 2020, les diocèses à l'heure de Laudato Si, c'est donc pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin pour ceux qui nous rejoindraient. Pierre Chastrus du CCFD Terres Solidaires, Jean-Marc Moschetta, enseignant à l'Institut d'études religieuses et pastorales, Pascal Fournier, directeur de la communication pour le diocèse de Rodez qui va nous rejoindre dans quelques instants, et vous Jean-Paul Pérez, vous êtes responsable d'une formation pour le diocèse de Tarbes et Lourdes, grammaire de la vie pour une écologie humaine, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'avoir pris un petit peu de temps dans cette émission, dans Coup de Zoom sur Laudato Si. Alors, on va commencer avec vous, puisqu'on n'arrive pas pour l'instant à joindre Pascal Fournier. Oui. Donc,
Pascal Fournier, s'il vous plaît.
Pardon. Excusez-moi, je m'y perds parce que j'entends plusieurs voix. Jean-Paul Pérez. Cette formation donc, qui a eu lieu récemment, qui est inspirée donc, d'un ouvrage de René-Isabelle Écochard intitulé « Petit manuel d'écologie humaine ». Présentez-nous cette formation « Grammaire pour une écologie humaine ».
Alors en fait, c'est une formation qui s'appelle la grammaire de la vie. Alors le terme de grammaire peut être connoté un peu péjorativement, on peut se dire, on revient des règles de grammaire, ça peut nous rappeler des souvenirs d'école, des choses comme ça. En fait, on a choisi ce terme parce que Benoît XVI l'a utilisé pour la première fois en 2007 lors d'un discours, lors d'un message que les papes font là pour les Journées mondiales de la paix en 2007. Où Benoît XVI disait que la paix est une tâche qui oblige chacun à répondre en harmonie avec le plan divin, et que cette réponse passe par le respect de la grammaire écrite dans le cœur de l'homme par son divin créateur. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi ce terme de grammaire de la vie. Et c'est une formation que l'on qualifierait d'écologie intégrale. Parce que dans l'écologie intégrale, comme j'ai entendu dire une fois et qui m'avait bien éclairé, c'est comme le nu intégral. C'est-à-dire qu'habituellement, on dit que tout est lié, effectivement, mais quand on parle d'écologie intégrale, comme c'est une écologie humaine, ça nécessite de regarder tous les aspects de la relation de l'homme, donc la relation de l'homme, évidemment, avec son créateur, mais la relation de l'homme avec les autres, comme on en a parlé, avec son prochain, avec la création, comme on en a parlé également, et également l'homme avec lui-même, parce qu'il y a... une écologie personnelle, comme l'a dit Benoît XVI une autre fois dans un discours de Bundestag en 2011, l'homme a une nature qu'il doit respecter et qu'il ne peut manipuler à volonté.
Alors
il y a ces quatre dimensions, en fait, qui sont vues dans cette formation-là. Relation à l'environnement, à la création, relation aux autres, relation à l'homme lui-même, et en particulier à son corps, par exemple, et relation, évidemment, au créateur.
Alors juste Jean-Paul Pérez, donc ça c'est les grandes lignes. Donc c'est une formation qui s'adresse donc aux parents, aux services d'aumônerie, services pastoraux. Bref, on comprend que tout le monde soit concerné. Il y a quelques points plus précis, l'émerveillement, la dynamique du don, la dynamique de l'amour vers l'harmonie divine. Est-ce que vous pouvez expliciter ces points plus précis?
Un premier point par lequel on rentre, c'est effectivement dans cette dimension d'émerveillement, de reconnaître qu'il y a un don. Qu'il y a un don, et donc on part par exemple de la création, l'environnement, on reconnaît qu'il y a un don merveilleux. Quand on regarde les belles montagnes qui nous environnent, par exemple, lorsque l'on fait cette formation, on explique aux gens, vous voyez, on contemple ces belles montagnes, on se rend bien compte que c'est pas nous-mêmes qui les avons faites, donc elles proviennent d'un don, elles proviennent d'un créateur. Et c'est important de se rendre compte qu'il y a un créateur, parce que ça nous remet dans notre position de créature. Et donc on se rend compte qu'il y a un don merveilleux, et qu'il est vulnérable, qu'il est fragile, donc c'est assez simple à comprendre sur le plan de l'écologie environnementale, que l'on en est responsable, et parce que c'est un bien commun, et pour cela, il y a un certain nombre de règles à suivre.
Alors deuxième point, c'est la dynamique du don, dynamique de l'amour, expliquez-nous.
C'est-à-dire, c'est reconnaître qu'il y a un donateur, un créateur, et que l'environnement est un don et que je dois en prendre soin, mais que mon prochain est aussi un don et que je dois aussi en prendre soin, par exemple. Et que c'est nous faire rentrer dans la dimension sociale dont parle le pape François dans le Laudato Si. Et dans rentrer dans cette dimension sociale, on apprend à regarder bien comment exprimer un désaccord, non pas sous l'angle de la critique, par exemple, mais sous l'angle d'une communication qui cherche à trouver quel est le bien commun que l'on a à rechercher ensemble. C'est explorer toute la doctrine sociale de l'Église dans les grandes lignes, si vous voulez, parce que nous sommes un don les uns pour les autres. Et de reconnaître cela, ça nous permet de poser un regard sur notre prochain qui est différent, forcément. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en compétition, par exemple. Lorsque l'un est faible, c'est parce que quelqu'un peut exprimer sa force pour aider le faible. De même manière que lorsque je suis fort, c'est pour aider quelqu'un qui est faible. Et ça va même plus loin, parce que nous, on parlait même d'écologie conjugale, par exemple. C'est-à-dire qu'on reconnaît qu'il y a un don à travers mon conjoint, que eh bien, ce don est un don merveilleux, évidemment, et que je dois en prendre soin, parce qu'il y a un bien là, qui est à trouver et qu'il y a un certain nombre de règles à suivre.
Alors Jean-Paul Pérez, pour finir, on a compris donc les grandes lignes, oui. Je voulais que vous insistiez sur un point, vers l'harmonie divine, je vois que c'est le dernier point, qu'est-ce que c'est donc que ce dernier point, et comment sortons de cette formation, vous donnez quelques verbatims, une maman de 35 ans, apprendre à dire oui au projet de Dieu pour moi, un homme de 42 ans, j'ai oui. découvert la joie de l'émerveillement et mieux compris le sens de la sexualité, vers l'harmonie divine, ça veut dire quoi?
Ben, ça veut dire que...
Comment sortons de votre formation?
On en sort bien.
Vous nous rassurez.
Et enrichit souvent. Et enrichit. C'est-à-dire que le titre « Harmonie divine », évidemment, est un peu accrocheur. Mais c'est se rendre compte qu'il y a... c'est de vivre selon le plan du Créateur pour soi-même. Vous voyez, c'est de retrouver une unité intérieure. C'est de retrouver une unité avec les autres. Vous voyez, et donc de rentrer dans une sorte de symphonie, si vous voulez, dont nous sommes les participants. Nous avons une partition à jouer. Et c'est rentrer dans cette harmonie qu'il y a avec les uns, les autres, avec la création. Et lorsque l'on reconnaît qu'il y a un créateur, ben c'est cela, rentrer dans cette harmonie divine.
Eh ben merci Jean-Paul Pérez donc de ce coup de zoom sur cette formation grammaire pour la grammaire de la vie pour une écologie humaine. Je redonnerai le site internet à la fin. Pascal Fournier, dans le temps qui je le donnerai à la fin, vous inquiétez pas. Pascal Fournier, on vous retrouve. Vous êtes directeur de la communication pour le diocèse de Rodez. Bonjour à vous.
Bonjour.
Deux coups de zoom dans votre diocèse et un où quelque part vous allez vous faire le porte-parole de d'autres diocèses, c'est le fameux label Église Verte. On fera une émission prochainement sur ce label. Nombre de paroisses, de communautés religieuses, de communautés chrétiennes se mettent en route et entre autres dans le diocèse de Rodez. Expliquez-nous ce qu'est ce label et peut-être dans combien de paroisses est-ce qu'il il commence à être mis en œuvre dans le diocèse de Rodez.
Alors en France, Emmanuel, c'est plus de 425 communautés paroissiales ou communautés religieuses qui sont dans cette démarche. Dans notre région Midi-Pyrénées, 18 entités, et dans l'Aveyron, 3, c'est peut-être pas beaucoup, mais c'est déjà ça, 3 paroisses qui sont entrées dans cette démarche, qui est en fait une proposition pour un petit peu évaluer, faire un auto-diagnostic, un éco-diagnostic de nos consommations, de nos modes de vie en tant que communauté paroissiale, et ensuite de mettre en place des outils pour gravir des échelons dans ce label. Alors on commence... au départ, on est graine de sève, puis on devient lys des champs, cèpe de vigne, figuier et cèdre du Liban, au fur et à mesure que l'on met en place des moyens très simples pour prendre soin de notre planète et adapter nos modes de vie et nos modes de consommation.
Et on peut aussi préciser, et je le dis parce que je le promets, on le fera, que ce label Église Verte, ce n'est pas qu'apprendre à faire le tri sélectif dans la salle paroissiale, c'est en fait tout un chemin justement de spirituel et aussi de transformation des relations sociales. Ce n'est pas qu'un label bio, on va dire, pour la paroisse. Autre point, c'est une exposition, Laudato aussi, qui tourne dans le diocèse. Présentez-nous cette exposition, Pascal Fournier.
Yann Arthus-Bertrand a illustré l'encyclique du pape François par ses photos de la Terre vue du ciel. Hein, donc c'est un livre, un très très beau livre, avec le texte intégral du pape et une centaine de photos de Yann Arthus-Bertrand. Et de ce livre a été tirée une exposition, 20 photos, 20 extraits de l'encyclique, 20 photos accompagnées de leur légende. Donc on peut se procurer très très facilement cette exposition auprès de Première Partie, qui est l'éditeur. Donc c'est ce qu'a fait le diocèse l'année dernière au printemps. L'exposition est restée pendant 3 mois à l'évêché de Rodez, où nous recevons bien évidemment du public, des visites libres, des visites pour travailler également, mais où nous recevons aussi des groupes qui viennent visiter l'évêché de Rodez. Et puis cette exposition est partie dans tout le diocèse. Elle a commencé, c'était à Marcillac en septembre, justement pour la journée de lancement de la démarche Église Verte dans cet ensemble de 5 paroisses, hein, de l'ancien bassin minier et du vallon de Marcillac. Puis cette exposition, elle est partie, elle est allée à Villefranche-de-Rouergue dans un lieu ouvert au public aussi, qui est le restaurant d'application du lycée hôtelier. Elle est partie à Millau, où là c'était un partenariat entre la paroisse et la municipalité, puisque les deux étaient vraiment partenaires à part égale, hein, dans l'organisation de cette exposition. L'exposition a été inaugurée par le maire dans une salle municipale, donc très très ouverte au public. Elle est partie à l'Aïeul, sur l'Aubrac.
Décidément, elle va partout alors.
Elle va partout, etc. Et dans des lieux très divers, des lieux d'église, mais pas que des lieux d'église. Des établissements catholiques aussi se l'approprient. Un travail magnifique qui a été fait par le collège de l'Aïeul autour d'acrostiches sur le mot Laudato si, sur le mot La Création. Ils ont aussi fait des concours d'éloquence, J'accuse, hein, à partir de chacune des photos de Yann Arthus Bertrand. Donc tout un travail qui est fait, des groupes de lecture de l'encyclique qui se sont aussi constitués, des projections de films, des soirées débats. On a même une paroisse qui a fait un stand sur un marché un dimanche matin, pour parler de cette exposition et de la démarche Église verte en même temps.
Voilà, c'est donc l'exposition Laudato aussi. Ça peut être une bonne idée aussi pour d'autres diocèses de faire tourner cette exposition et donc de découvrir aussi pour ceux qui voudraient se plonger dans ce livre magnifique. Les librairies chrétiennes me disaient que c'est le livre qui se vend le plus. Ces derniers temps, c'est le plus gros succès des librairies religieuses. Pour finir,
un très beau cadeau pour une communion, pour une confirmation également.
Un très beau cadeau en effet. Alors pour finir et pour sans tenter d'être exhaustif, des labels Église verte, vous avez dit donc qu'il y a d'autres diocèses où des paroisses se mettent en route. Le diocèse de Toulouse, Monseigneur Le Gall, donc, vient de publier une lettre intitulée « Du gémissement à l'engagement pour une conversion écologique diocésaine ». Monseigneur Robert Le Gall, archevêque de Toulouse, dit « Le monde dans lequel nous nous trouvons se rend compte qu'il a besoin d'être sauvé ». C'est à lire et à retrouver. Le diocèse de Toulouse, qui, comme d'autres diocèses, met en place des équipes Laudato si pour essayer d'infuser cette culture ou cette transformation intérieure. Et puis, on pourrait citer aussi pour le diocèse du Gers, l'abbaye de Boulors, assez connue et qui fait parler d'elle en ce moment. La fraternité selon la jeunesse, c'est donc le 14 mars prochain, l'abbaye, il y a toute une journée autour donc de ce thème. Moi, j'avais une dernière question, Jean-Marc Moschetta, elle est en une minute, puisque votre spécialité, c'est de faire des synthèses. Si on devait sortir de cette émission en se disant à quelle révolution on est appelé, dans le fond, c'est, que je disais en introduction, une révolution intérieure, ça voudrait dire quoi ?
Je pense qu'on pourrait donner ce sens de dire que effectivement, moi je suis très inspiré par cette parole de saint Paul, ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est fort. Et il y a dans cette phrase quelque chose qui pour moi est une espèce de résumé spirituel qui peut nous donner une orientation pour ce carême, c'est-à-dire prendre acte de la présence de Dieu dans ce qui est faible et lui témoigner tout simplement notre amour, notre émerveillement par rapport à cette position. Voilà moi ce que je pense qui pourrait nous inspirer pour vivre saintement ce carême 2020.
Eh ben merci beaucoup. Pour finir, quelques informations pratiques. Donc le livret du CCFD Terre Solidaire, il faut le retrouver sur le site du CCFD. Tout simplement, vous tapez CCFD Terre Solidaire sur n'importe quel moteur de recherche. CCFD-terresolidaire.org. Grammaire pour la vie, c'est grammairedelavie.fr. Et à lire et à relire l'encyclique du pape François, Loué sois-tu, Laudato si. Un grand merci à tous d'être venus pour cette émission autour de ce plateau. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.